Bonjour. Cette semaine, j'ai été abordé par un pasteur qui a parlé de la vie de disciple et je lui ai demandé, mais comment se fait-il depuis 1968 que je suis converti? J'ai entendu souvent prêcher sur la vie de disciple, mais je n'ai jamais entendu un pasteur se servir de Luc 14, 33. Luc 14, 33, c'est « Quiconque ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut pas être mon disciple. » Et les disciples de Jésus, les douze, avaient renoncé à tout pour le suivre. Et puis ensuite, quand Jésus est parti, il a dit « Enseignez, allez par toutes les nations et enseignez-leur à faire tout ce que je vous ai prescrit. » Donc aussi de renoncer à ses propres biens. Et le résultat, c'est que l'Église qui a été créée à Jérusalem, et ensuite on le voit aussi dans les autres épîtres, c'est une Église communautaire. Tant qu'on est sur cette planète, nous devons accepter et glorifier notre acte de foi dans les autres personnes. Je voudrais vous lire un texte dans Matthieu chapitre, dans Psaume 27, excusez-moi, dans Proverbe 27, 7. Voilà ce qui est dit. Proverbe 27, 17 exactement. Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un homme. Mais pas que. Écoutez ce que j'ai à vous dire. Jésus a créé l'Église sous la forme d'une communauté, et la communauté, c'est la vie. Et c'est de la communauté que vient notre capacité de survie, en fait. C'était comme ça quand on habitait dans les cavernes, à l'âge des cavernes, et ça continue de nos jours. Celui qui ne partage pas avec les autres les joies et les moments difficiles, il ne pourra jamais connaître ses propres qualités et ses propres défauts. Et je vois presque tous les jours, sur les réseaux sociaux, à la télévision, des gens qui parlent et qui se sentent exclus et qui sont seuls. C'est triste de les entendre parler de leur solitude. Jésus, Dieu, ne veut pas que nous soyons seuls. Regardez, dès le commencement, dans Genèse chapitre 2, Dieu avait créé Adam et il a vu que c'était pas bon pour Adam d'être seul. Alors il a créé Ève, et puis ensuite des enfants sont nés, et aujourd'hui, je crois, on est un peu plus de 7 milliards de personnes, et sur ces 7 milliards de personnes, eh bien, il y a des gens qui sont seuls. Comme Michou et moi, nous avons eu la révélation que Jésus voulait rétablir l'Église, selon Actes chapitre 3, verset 21, c'est-à-dire la guérir, c'est-à-dire la remettre en état. Quand nous avons eu la révélation par les Écritures, pas par une illumination de notre imagination, ou de je ne sais pas quoi, quand on a eu la révélation par les Écritures que Jésus veut une Église communauté, on était jeunes. Et beaucoup de pasteurs, d'amis, de copains et de copines nous ont dit que ça ne marcherait pas. ça fait 47 ans que ça continue, que nous vivons en communauté. 47 ans. Le fer aiguise le fer et nous nous aiguisons au contact des autres. Nous devenons plus tranchants et pouvons plus facilement couper entre ce qui est bien et ce qui est mal, ce qui est utile, ce qui ne l'est pas, ce qui est principal, ce qui est secondaire. La Bible nous dit que la parole de Dieu, c'est une épée à double tranchant. On trouve ça dans Hébreux 4, 12. Une épée, ce n'est pas en caoutchouc, c'est en fer. Et on aiguise une épée. La parole de Dieu est une épée aiguisée, tranchante, à double tranchant. Et nous nous servons dans la communauté de cette épée à double tranchant, et nous nous aiguisons avec cette épée les uns les autres dans la communion fraternelle. La parole de Dieu est à double tranchant, et nous sommes aussi, nous, à double tranchant. Dans notre communauté, il y a eu des gens qui se sont servis de leur côté négatif du tranchant. On ne peut pas éviter ça. Il y aura toujours des gens tranchants qui travaillent en vue de diviser. Mais s'il y a le côté négatif, il y a aussi le côté positif de l'acte de trancher. Les chrétiens de l'Église primitive le vivaient. Simon le magicien, schlac, était tranché, retranché. Ananias et Saphira, schlac, tranché, retranché. En persévérant dans la communion fraternelle et la crainte s'empare de nous parce qu'on voit la puissance de Dieu à l'œuvre. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, et c'est ce que nous cherchons à faire, et la crainte de Dieu s'empare de chacun de nous. Vous voyez, le verset qui m'a conduit à Jésus, c'est Matthieu 18, 20. « Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, quoi qu'ils demandent, je le ferai, parce que je suis au milieu d'eux. » Jésus promet d'être là, au milieu de ceux qui sont assemblés et d'accord entre eux. Plus nous sommes assemblés, plus nous sommes ensemble, plus nous nous mettons d'accord, plus la porte de la bénédiction s'ouvre. On est tous là. Moi, je me rappelle quand j'allais dans l'église de Pentecôte en Suisse, j'entendais qu'il y avait une sœur qui disait toujours ça. « Oh, voici qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. » Ah oui, chiche. Ils demeuraient ensemble 2 heures par semaine. Bof. Le texte réel dit « Oh, voici qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères de demeurer, d'habiter ensemble. » C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête. L'huile qui ça représente le Saint-Esprit qui oint notre intelligence, notre tête, qui descend sur la barbe d'Aaron, c'est-à-dire sur ce qui le différencie des autres, qui descend sur le bord de ses vêtements, notre vêtement de justice qui nous a été acquise par Jésus, mais le Saint-Esprit oint tout cela. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Où est-ce que Dieu envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité? Ben, là où des frères et sœurs demeurent ensemble. Enfin, moi, c'est ce que je lis, hein. Mais non, vous me direz, c'est une interprétation. Vous pouvez être libre de penser comme vous voulez. Moi, je sais que il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Ça fait 47 ans que je vis avec des frères et sœurs. Et je peux vous dire, c'est agréable. De temps en temps, il y a des petits couacs, mais nous les réglons et nous tranchons avec l'aide de la parole de Dieu. Puis voilà. On s'incite les uns les autres à l'amour, on s'incite à faire de bonnes œuvres, et puis on n'abandonne pas notre communion fraternelle. Nous sommes aiguisés. Vous savez, une lame qui est aiguisée, là j'ai 2 épées dans mon bureau. J'en ai une qui est rouillée, qui est vieille et rouillée, et puis j'en ai une qui est fraîchement aiguisée. Celle qui est fraîchement aiguisée, elle brille. Si vous êtes aiguisé, et c'est parce que vous êtes avec des frères et des sœurs, vous vous aiguisez l'un l'autre, eh bien, vous êtes comme des lames propres. On va lire Hébreu, si vous voulez bien, Hébreu chapitre 10, versets 24-25. Je lis 24-25. Veillons les uns sur les autres. Comment voulez-vous veiller les uns sur les autres si vous vous voyez que 2 heures par semaine à l'église? Veillez les uns sur les autres pour vous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour du retour de Jésus. Oh, alors là, pour prêcher au sujet du retour de Jésus, ça, c'est très à la mode. Mais comment pouvons-nous nous exciter à de bonnes œuvres. Comment pouvons-nous veiller les uns sur les autres si on ne se connaît pas, si on n'est pas ensemble? Je ne sais pas comment ils font. D'ailleurs, si, je sais. La plupart de ces gens qui sont dans ces églises sont quand même malheureux et viennent souvent me raconter leurs peines et leurs chagrins. Alors bien sûr, dans ce monde, les gens de ce monde, ils sont naturellement attirés par ce qui est ordinaire. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. C'est vrai que c'est extraordinaire. Ça n'est pas normal de vivre en communauté comme nous le faisons aux yeux du monde. Ça n'est pas normal. Mais Jésus a dit qu'il fallait le faire. Nous le faisons. Les gens de ce monde sont attirés par ce qui est ordinaire. Parce qu'ils ont pour modèle non pas Jésus, mais leur propre limitation. Et ils sont bourrés de peur, ils sont bourrés de préjugés. Vous savez, le prix à payer pour être accepté par tout le monde, par ceux qui sont attirés par le normal, entre guillemets, ce prix-là est très élevé. Nous n'avons pas accepté de payer ce prix-là. Dans la communauté, nous avons accepté de payer le prix que Jésus exige, le prix du renoncement à notre propre vie, pour nous mettre au service des uns et des autres. Parce que vouloir être et faire comme les gens de ce monde, qui cherchent ce qui est ordinaire, ce n'est pas une preuve d'amour envers la communauté humaine. Regardez comment les gens s'aiment les uns les autres dans ce monde. Je dirais que c'est plutôt la preuve que les gens ne s'aiment pas. Cet individualisme. D'où cette multitude de gens seuls. Seuls. En communauté, on ne cherche pas à être aimé à tout prix. Parce qu'on sait que l'amour n'a pas de prix. L'homme a besoin de ne pas être seul. Et quand on est jeune, c'est facile parce qu'on est très mobile. Et puis quand on devient vieux, ben là ça devient un peu plus difficile parce qu'on est moins mobile. On a besoin des autres pour faire ceci, pour faire cela. On ne peut plus faire soi-même certaines choses parce qu'on a mal au dos, mal ici, mal là. Et puis voilà, on ne peut plus forcément conduire, etc., etc. Alors voilà, bon ben, et les gens vieillissent. Seul. Dans la communauté de Jésus-Christ, en vieillissant, on se sent plus vulnérable que quand on était jeune, c'est sûr, mais nous ne sommes pas seuls. La vieillesse, ce n'est pas un signe de faiblesse, mais c'est simplement un signe d'humanité. Nous sommes jeunes et vieux, ensemble, associés, à ceux qui ne cherchent qu'à ouvrir une seule porte, celle du cœur de Dieu. Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ah, qu'il est doux de demeurer ensemble pour des frères et sœurs, parce que c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie éternelle. Alors, de même que le fleuve n'oublie pas que son but, c'est la mer, notre amitié fraternelle n'oublie pas que sa seule raison d'exister, c'est de faire preuve d'amour envers les autres. Nous existons pour cela, parce que c'est l'amour que nous avons les uns pour les autres qui glorifie Jésus. Et plus on est ensemble, plus on a de possibilités de démontrer que nous nous aimons les uns les autres. Ce que Jésus voulait en créant l'Église communauté, c'était que nous soyons associés en laissant l'amour se manifester sans restriction, sans attendre de récompense aussi. Et sans que cette amitié fraternelle ne soit jamais bloquée par la peur d'être incompris. Je repense toujours à cette chanson de Jacques Brel qui dit que la vieille dans son coin, elle a ses mains qui tremblent et personne n'écoute ce que ses vieilles mains cherchent à dire. Écoutez. Écoutez les personnes âgées. Mais quand pouvez-vous les écouter? Quand on vit ensemble, c'est beaucoup plus facile. On est ensemble. Voilà, je vous dis ces quelques réflexions afin que vous compreniez mieux pourquoi nous vivons l'Église en communauté. Afin que cela vous inspire et que cela soit des semences dans votre cœur, et puis que peut-être un jour ça germe et que vous vous décidiez à faire ce que Jésus veut. Amen. Merci Jésus de bénir ces quelques paroles que j'ai données ce soir. Aide chacun et chacune à vivre selon ta parole. Au nom de Jésus-Christ, mon Dieu. Amen. Au revoir.